418-971-101, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, merci de nous en informer. On m'informe d'ailleurs que dans le secteur de Saint-Augustin, je salue notre ami David qui dit « C'est officiellement le déluge et les éclairs à Saint-Augustin. » David qui est sous l'eau présentement, nous mentionne-t-on.
Neuchâtel, pas facile aussi. Gros tonnerre orage.
Ce sera ça tout au long de la journée et la soirée, selon Environnement Canada, avec des averses ou des orages, maximum de 27. Pour ce qui est de demain vendredi, ce sera nuageux avec 60% de probabilité d'averses en matinée et tôt en après-midi, maximum de 21. Pour ce qui est du début du week-end, samedi, ce sera plein soleil avec un maximum de 28 et dimanche, ben, ce sera ensoleillé avec un maximum de 31. Le maire de la Ville de Québec, on l'a finalement, on était supposé l'avoir vers 13h. Là, on me dit on est capable de lui parler. Est-ce qu'il est en ligne? Monsieur le maire, bonjour.
Absolument. Salutations à vous deux.
Comment va Bruno Marchand avec ce festival d'été de Québec qui bat son plein et qui est de toute beauté, on va se le dire. Malgré la température, les gens sont là avec leur poncho et tout le monde s'amuse.
Ah ben, tu le résumes super bien. C'est exactement ça. Les gens sont heureux, les gens sont bien. Les shows sont bons. Écoute, celui de Big Flo et Oli va passer dans l'histoire. Il y a du monde. Bon, la météo, elle pourrait nous donner un coup de main, ça nous aiderait. Mais à part de ça, la vibe était incroyable.
Avez-vous vu, est-ce que vous êtes au Festival d'été de Québec tous les soirs? Puis si oui,
non.
Est-ce que vous avez découvert des groupes qui vous ont franchement intéressé, là?
Non, mais un groupe que j'ai découvert que je pensais pas du tout aimer, mais qui ont fait un bon show avant Sale Barbe, les Hey Babies.
Oui. Oui.
Du Nouveau-Brunswick, les filles étaient en feu, honnêtement, un bon show. J'étais allé à Rod Stewart le premier soir, mais là, ça, c'était toute de la nostalgie. Là. C'était toutes mes années, Glass Tiger, Richard Marx, puis Rod Stewart, mais j'y retourne en fin de semaine, là, fait que j'en profite.
Donc, est-ce qu'on vous croise dans la foule ou bien vous êtes parmi les VIP, M. le maire?
Les deux, ça dépend. Okay. Des fois, je suis invité, la première soirée, je suis toujours invité par le festival dans leur tente, là.
Ouais.
Mais des fois, je suis dans la foule, ça dépend.
Puis, vous pensez quoi de ça? Parce qu'il y a des gens qui ont commencé à écrire, ah, il y a, mettons, la ministre des Transports dans la tente VIP avec la nourriture et tout ça. Puis là, il y avait des photos. Vous pensez quoi de ça, de ces invitations-là politiques pour le fait?
Ben, je pense que c'est un sine qua non, dans le sens où pas juste le festival d'été, là, les compagnies qui ont des tables dans ces endroits-là, que ce soit Bell, que ce soit Industrielle Alliance, autres, ils invitent leurs partenaires, ils n'invitent pas nécessairement des politiciens, mais ils invitent leurs partenaires. Ça fait partie d'une façon de soutenir le festival d'été parce qu'ils achètent chèrement leurs tables. C'est bon pour le festival d'été, ça amène de l'argent pour le festival d'été important. Et, ben, eux autres, ça leur permet de se lier à des partenaires. Ben, tu sais, quand, par exemple, Hydro-Québec invite des élus, tu sais, c'est pas un grand enjeu, puis là-dessus, là, les élus bénéficient pas davantage, là, c'est ridicule, ils font leur travail.
Mm-hmm.
Ils peuvent pas y aller avec leur chum, là. Ils vont pas là avec 5-10 de leur gang, ils vont pas là quand ils veulent, ils sont obligés d'être dans le mode élu, puis ça fait partie de leur travail.
C'est du PR, là.
Oh oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, tu sais. Il y avait plusieurs maires de différentes villes avec Hydro-Québec, ben, tu sais, c'est la job qu'ils doivent faire, représenter leur ville, trouver des partenaires, discuter. Il n'y a personne là-dedans qui est en mode vacances.
Monsieur le maire, on a plein de questions à vous poser. On va commencer tout de suite. Je pense que vous et moi, on est très à l'affût de ce qui se passe dans le quartier Saint-Roch. On s'est croisés quelques fois dans la dernière année. Donc, je sais que vous êtes assez souvent dans ce secteur-là. Vous rencontrez aussi des commerçants. Notre ami Tony, vous êtes allé le rencontrer à la Galette libanaise.
Ouais.
Puis ça lui a fait un plaisir de nous le dire en disant « Le maire est venu me rencontrer pour savoir l'état des choses. » Saint-Roch, moi je suis un gars de Saint-Roch, je suis né à Saint-Roch, j'ai grandi à Saint-Roch, j'ai resté là pendant plus d'une trentaine d'années. Par la suite, j'ai été en Beauce, par la suite, j'ai été à Val-Bélair et là, je suis de retour dans le secteur Saint-Roch. Je l'ai vu sous toutes ses couleurs, Saint-Roch, puis actuellement, l'itinérance est omniprésente, la toxicomanie dans nos rues est omniprésente, l'alcool aussi qui est là, qui fait en sorte que nos itinérants sont un peu poqués. À mes yeux, à moi, puis je pense que vous allez vous rallier à moi, là, une société qui se respecte devrait aider ces gens-là pour qu'il n'y en ait plus un dans la rue dans cet état-là. Si moi ou Pascal, on était intoxiqués dans la rue, les policiers viendraient nous voir assez rapidement pour nous dire « Hey, qu'est-ce qui se passe? Là? On peut-tu t'aider? On peut-tu t'amener quelque part pour que tu aies dégrisé? » Là, on dirait qu'on a abandonné ce secteur-là parce qu'on se dit « Ouais, on n'a pas le choix, les services sont là, donc il y a une certaine tolérance. » Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour ces gens-là en tant que citoyen? Puis vous, de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus?
Ben d'abord, tout à fait d'accord avec toi avec ce que tu viens de mettre en contexte. Là. La situation, elle n'est pas en train de se résorber parce qu'il y a des gens qui en arrachent, parce qu'il y a une crise du logement, parce qu'il y a un paquet d'enjeux. Tout à fait d'accord avec toi qu'on ne devrait pas faire en sorte de se dire ben c'est normal. C'est pas normal. Les initiatives qu'on supporte font une différence. Porte-clés, par exemple, qui est une initiative de 8 groupes communautaires, là, ben, eux autres, ils sortent 80 % des gens avec qui ils travaillent de la rue, ils arrivent à leur offrir la stabilité résidentielle. L'itinérance, c'est oui, un toit, mais c'est aussi de l'accompagnement pour être capable de se gérer, de reprendre l'autonomie dans ce toit-là. C'est possible. Et moi, je me bats, la ville, on a augmenté de plusieurs millions nos ressources, notre engagement, puis sur l'ensemble du spectre, là, autant le soutien communautaire, l'achat du sol de l'église, l'ouverture de répit, le travail qu'on fait avec les différents, la SDC, l'image de marque, on amène un spectacle dans le sol de l'église, on développe un paquet de choses pour faire en sorte que, à la fois en logement, mais aussi en activité, en capacité de mettre en lumière ce quartier qui est magnifique, qui sera toujours un peu badass, là. C'est correct, c'est beau Saint-Roch comme ça, mais qui ne peut pas, on peut pas se dire, mais c'est comme ça dans toutes les villes, puis ainsi soit-il, ça se peut pas. On est chanceux quand on se compare à d'autres. Edmonton, c'est 5000 itinérants, on en a 1000 ici, pour une ville comparable.
C'est parce qu'il y en a de plus en plus, puis j'ai posé une question hier, monsieur le maire, aux auditeurs, puis aux policiers qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a un mot d'ordre dans le secteur Saint-Roch pour nos policiers de, tu sais, essayer de tempérer un peu les choses quand ça va mal, non. Mais quand il y a des gens qui sont intoxiqués, ben on les arrête pas, puis on les laisse là en se disant ils vont dégriser tout simplement dans la rue, non. Parce que sérieux, là, il y en a qui représentent des dangers pour eux-mêmes, puis ils font peur à des citoyens qui ont affaire dans ce secteur-là, et je me dis, pourquoi on tolère ça? Ça devrait
pas être toléré. Il n'y a aucun mot d'ordre. Si, pour moi, là, si, prenons un exemple, tu vends de la drogue ou tu es en train de péter quelque chose, des fenêtres, ou peu importe, là, tu fais un comportement qui ne respecte pas le code criminel, là, ben, que tu sois un itinérant ou que tu sois un riche homme d'affaires, la police devrait agir pareil. Après ça, la police, elle a sa capacité de discrétion. Nos agents sont capables de savoir quelle est la bonne intervention à faire au bon moment. On se fie au jugement des policiers, mais il n'y a aucun mot d'ordre de dire, hey, c'est pas grave, on tolère. Il n'y a même aucune volonté de tolérer. Il y a juste cette idée de dire, on peut faire mieux. C'est pas vrai que ce qui est là, c'est une fatalité. Québec, on s'en tire mieux par rapport à d'autres, mais le constat que tu as livré, il est le même. Il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui sont inquiets. C'est pas la catastrophe, mais c'est pas ce qu'on souhaite, et on doit faire mieux. Puis là-dessus, puis je le sais que les gens qui nous écoutent, ça les motive pas au plus haut point quand je dis ça. Mais à un moment donné, si on demande à la ville de gérer les hôpitaux, là, il va falloir qu'on me donne l'argent aussi. Bien, l'itinérance, c'est au gouvernement du Québec que ça appartient. On en fait plus qu'on n'en a jamais fait. On met des millions, des dizaines de millions de plus pour nettoyer des graffitis, pour aménager le quartier, pour soutenir la société de développement commercial. On fait plein d'affaires pour soutenir les itinérants. Mais à un moment donné, il faut que le gouvernement du Québec soit à hauteur. Puis c'est pour ça qu'avec cinq villes, hier, on a signé une lettre en disant « Hey, come on, François Legault, le premier ministre, embarque avec nous, là. » La Finlande s'en va vers l'itinérance zéro. Ils arrivent à faire en sorte qu'il n'y ait plus d'itinérance visible présentement. Mm-hmm. On n'est pas plus cons qu'eux autres. Mais il faut que le gouvernement du Québec embarque parce que c'est lui qui est responsable de ça. Présentement, les villes, on en fait beaucoup plus. On en fait plus qu'on n'en a jamais fait. Des maisons modulaires dans Beauport et autres. On en fait plus qu'on n'a jamais fait depuis que je suis arrivé. Mais la situation rempire. Donc, on n'est pas à la hauteur de ce qu'il faut. C'est vrai.
Mais ça a chapeau par rapport au gouvernement. Qu'est-ce que vous demandez? Parce qu'on a l'impression, nous, en tant que citoyens ou en tant que commentateurs de l'actualité, que tout le monde sortir la balle.
Ouais, mais moi je suis d'accord. Je comprends pourquoi tu dis ça là. Je comprends pourquoi. Moi, je tire pas la balle au gouvernement. Je prends mon rôle. Mais la partie du rôle qui appartient au gouvernement, je peux pas la jouer. Qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande trois choses simples. La première, c'est que le premier ministre sorte et dise on s'en va au Québec vers l'itinérance zéro. Ça prendra 10 ans, ça prendra 15 ans, mais on n'arrêtera pas tant qu'il n'y aura plus d'itinérants dans la rue. Comme disait Yannick tantôt, là, c'est inacceptable, c'est intolérable, pis c'est pas vrai qu'on va faire une fatalité, c'est pas grave. Non. C'est du monde qui souffre, c'est des humains qui souffrent, pis c'est des humains qui souffrent d'abord les personnes itinérantes, leurs familles, leurs proches, mais aussi les citoyens, les gens d'un quartier, les commerçants. Ça n'a pas d'allure de tolérer ça, et c'est possible d'arriver à zéro, c'est pas une utopie.
Parce que
première
vous savez,
des choses, une volonté politique.
Ouais. Vous savez tout
deuxième
comme moi,
choses,
oui, oui, allez-y,
moi.
Allez-y.
Deuxième des choses, des statistiques. On n'a pas de statistiques annuelles. On a des statistiques aux 2, 3, 4 ans. Fait qu'est-ce qu'on fait? On pense que c'est pire, on s'améliore-tu, on fait-tu les bonnes choses? Si on ne fait pas les bonnes choses, là, on ne s'améliore pas, il faut le savoir. Puis pour le savoir, ça prend des stats.
Parce que là, M. le maire, avec les températures, là, moi je suis dans le secteur à tous les jours présentement, avec les températures qu'on a, là, c'est les abris d'autobus qui servent aux itinérants à prendre une petite bière à l'intérieur, c'est juste hallucinant. Je vais vous amener sur un prochain
sujet. Peux-tu rajouter une dernière chose?
Allez-y, oui, la troisième, oui.
Je fais ça vite. Du logement accompagné.
Oui.
Quand on prend les personnes itinérantes, on les amène dans le logement pour les accompagner, ça marche. On sort des gens de la rue. Mais ça en prend plus. Présentement, il n'y en a pas assez.
Prochaine question. À qui ça profite de faire traîner les conventions collectives qui sont échues? Bibliothèque Gabriel-Leroy, je pense que ça a duré 3 mois, là, 106 jours de grève à peu près. Les chauffeurs d'autobus l'an passé, conventions collectives qui étaient échues depuis un bout. Les policiers qui sont avec des casquettes rouges en tenue de combo au Festival d'été de Québec. Les cols bleus aussi qui ont fait des moyens de pression. À qui ça profite d'attendre que les conventions collectives soient finies et attendre plusieurs semaines après pour après ça négocier puis leur laisser faire des moyens de pression comme on vit présentement avec le syndicat d'entretien du RTC?
Ça ne profite à personne.
Mais alors, pourquoi on ne signe pas avant?
Ben parce que, Guillaume, Yannick, on signe, toi et moi, une entente. Tu me demandes 1 million, je ne suis pas capable de payer. Tu me dis, si je te donne pas 1 million, je vais aller en grève. Qu'est-ce que je fais? Je paye.
Donc, c'est intentionnel pour eux de laisser traîner ça le plus longtemps possible? C'est quoi le rôle d'un maire dans les négociations?
Le rôle d'un maire, c'est de donner le cadre financier. Ouais. Moi, je suis pas à la table de négo. Mais tu as nommé des syndicats qui ont fait des moyens de pression ou qui en font encore, là. Il faut pas oublier qu'à travers ça, on a signé l'école blanc, il n'y a pas eu de moyens de pression. Les professionnels, il n'y a pas eu de moyens de pression. L'école bleue, ça a été limité. On a signé les pompiers, il n'y a pas eu de moyens de pression. On a signé un paquet de syndicats qui n'y a pas eu de moyens de pression. À un moment donné, dépendamment des demandes qui nous sont faites, moi, là, les moyens de pression, j'en veux pas, puis je suis conscient que ça écarte le monde. Cependant, ma position, c'est que je vais pas signer quelque chose qui va faire en sorte que je vais être obligé de monter les taxes plus que je les ai montées. Je me suis battu pour qu'on soit la ville des plus grandes villes du Québec avec la moins grosse croissance de taxes sur 4 ans. On a réussi ça. On baisse la dette. On gère l'argent des autres comme la prunelle de nos yeux. Mais je peux pas donner 30% aux chauffeurs. Je te dis pas qu'ils le méritent pas. Je te dis pas qu'ils sont pas bons ou aux mécanos. Je te dis juste, c'est pas dans notre capacité de payer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on travaille avec notre capacité de payer. Un syndicat qui dit, ben moi, là, je veux que ça soit ça, puis je m'en vais en grève si tu me donnes pas ça, ben non, je réponds pas à ce chantage-là.
Parce que là, non, pas de RTC, pas de traversier. Québec fait dur un peu. Bon, la circulation, les températures, bon, y a des gens qui se sont adaptés. Du covoiturage, je salue ça. Le vélo, il y en a qui ont embarqué sur les fameux à vélo. Je salue ça aussi. Mais Québec devrait être belle au Festival d'été de Québec. Puis on a des grosses problématiques. Les Uber coûtent une fortune. Les chauffeurs de taxi qui arrêtent arrêtent pour des gens sur le fly qui demandent 100$ pour partir du centre-ville de Québec pour aller à Charlebourg, 100$ cash.
C'est vrai?
Oui.
C'est ce qu'on
a entendu, à savoir si c'est vrai. Moi, c'était pas moi qui tenais le panel quand ça s'est fait, mais c'est ce qu'on a entendu.
C'est des gens qui l'ont vécu, là, qui nous l'ont dit directement. Fait que c'est pas, mettons, une rumeur.
Mais tu sais, la grève, là, c'est le syndicat qui la décide. C'est pas moi. Ce que je demande, là, c'est qu'on négocie matin, midi et soir, qu'on travaille à trouver des solutions, puis qu'on travaille à trouver des voies de passage. On demande 2 choses. On demande un salaire qui est équitable avec les autres, qui va tourner autour de à peu près un peu moins de ce qu'ils ont demandé. Puis on demande des gains en productivité, que ça soit plus efficace, ça coûte moins cher. C'est juste ça qu'on demande. C'est ça qu'on veut. C'est ça qui est à la table de négo depuis le début. Le syndicat dit non, nous, on veut pas aller là, on va en grève. C'est son choix d'aller en grève. Les cols bleus ont fait 2 jours de grève, sont rentrés, puis sont venus négocier, puis ils ont pu refaire la grève, là. Mais c'est pas vrai comme maire que je vais faire ce que d'autres ont fait, puis je vise pas du tout M. Labeaume, là. Mais ce que d'autres ont fait depuis 40-50 ans, oh my God, il y a de la pression sur le maire, parce qu'effectivement, chez les transports, c'est pas facile, ben je vais signer quelque chose, je vais délier les cordons de la bourse, parce que je vais avoir la paix, puis je serai pas blâmé. Puis dans 10-15-20 ans, les gens qui vont vivre avec ces conventions collectives-là vont faire tabarnouche. Pourquoi qu'on a donné ça? On vit avec des affaires dans nos conventions collectives que les politiciens ont données parce qu'ils voulaient acheter la paix. Mais à long terme, acheter la paix, c'est jamais gagnant. Le syndicat négocie de bonne foi, on négocie de bonne foi, on trouve des voies de passage. Quand il décide d'aller en grève, c'est sa décision.
Est-ce que ça joue un peu aux enfants gâtés ou encore on regarde chez le voisin, ils ont eu ça, fait que nous aussi, on lève la main dans tout ce qui est...
Bien sûr. Puis qu'est-ce qu'ils pensent? Pourquoi ils font ça actuellement? C'est pour que ça fasse mal, là? Pourquoi ils ne l'ont pas fait il y a 2 semaines?
Ils font au
moment où ça peut faire mal, puis ils le font au moment où ils pensent que le policier va fléchir. Vous m'avez parlé tantôt des bibliothécaires de l'Institut canadien. Ça, c'est pas nous, c'est l'Institut canadien, mais c'est notre partenaire, donc c'est pas vrai qu'on n'est pas liés, là. Mais ils avaient décidé de faire la grève à l'ouverture de la bibliothèque Gabriel-Leroy.
C'était stratégique.
C'est pourquoi vous pensez...
Mais en même temps, on regarde un peu s'ils veulent faire des moyens de pression, on comprend. Là, on n'est pas d'accord, nous, avec les moyens de pression actuels, mais on comprend que si tu veux faire ses efforts, faut que tu y ailles dans un moment où c'est un peu le temps de le faire.
T'as raison. Il faut juste qu'ils assument le fait qu'ils veulent faire ses efforts, qu'ils prennent du monde en otage, comme je l'ai dit. C'est leur choix, c'est pas le mien. Mais c'est pas vrai que je vais dire, oh non, hey, le fait que c'est important, parce que ce que Yannick a dit, je le crois 100%, c'est très important, puis la ville devrait pas être comme ça présentement, mais c'est pas vrai que je vais amputer le futur. je vais amputer le compte de taxes des citoyens pour dire, hey, le maire a sauvé le fait. Bravo, monsieur le maire, vous êtes un sauveur. Mais dans 3, 4, 5, 10 ans, on va s'en taper ses doigts parce que ça va être une mauvaise signature.
Ça, c'est un petit point intéressant, puis je fais une mini parenthèse parce que Yannick et moi, on se doit toujours d'être honnêtes en ondes. Vous êtes avec nous en ce moment au téléphone, Bruno Marchand, vous êtes le maire de Québec. Il y a une chose sur laquelle nous, on a une critique qui est forte par rapport au compte de taxes. Là, on comprend qu'il y a des augmentations de salaire qui se valent, d'autres qui se valent peut-être moins. Il y en a qui vont fonctionner un moment, d'autres non. Mais on est allé chercher beaucoup d'argent dans les poches des contribuables avec des taxes comme les taxes au chat, les ci, les ça, à travers votre dernier mandat. Est-ce que parfois on est allé chercher de l'argent à un endroit? Mais est-ce qu'on parfois on va chercher de l'argent peut-être en grattant des endroits qui vont faire plus mal qu'on pense à la ville?
Bien, qu'est-ce que tu veux dire par rapport...
Avec l'accumulation, si on y va avec la taxe au chat, avec l'immatriculation...
Attends,
avec
taxe au chat, là, c'est 10 $.
Mais quand on accumule ça à la fin de l'année, en ce moment, dans un contexte économique avec toutes les complexités pour tout le monde, ça
fait... On peut accumuler les autres choses de l'autre côté? Les bases de plein air sont gratuites. Nos PVE coûtent moins cher que partout dans la province. Moitié moins qu'à Lévis par semaine.
Je fais pas juste taper sur... Le général. Mais je prends ce point-là parce que je pense que c'est important. Des fois, on s'en rend pas compte, mais avec l'accumulation, cette somme d'argent-là, elle est haute pour les contribuables. Puis il y en a qui se posent la question, est-ce que ça se valait réellement dans le contexte économique puis dans le contexte de réflexion?
Puis Pascal a tout à fait raison. On est les citoyens les plus imposants en Amérique du Nord, ce qui fait en sorte que même une petite taxe de 10 $ pour ce qui est de chaque chat, puis d'ailleurs, je ne vous ai pas envoyé mon 20$, vous ne l'aurez pas, mais même une taxe de 10 $ pour chaque chat, ça devient... C'est irritant.
Oui, mais je comprends. Mais tu devrais l'envoyer ton 20$ après ça. Non. Comme j'ai dit, ça t'appartient, mais tu devrais.
Aller cogner chez lui.
Mais non, j'irai pas. Mais quand t'as un chat, il y a des coûts plus élevés que la ville doit payer pour toi.
Mais je vous en donne assez, M. le maire.
Mais OK, tu m'en donnes assez. Regarde bien. Dans les 4 dernières années, la croissance des taxes de Québec a été la plus basse des 11 plus grandes villes du Québec. On a la plus basse croissance des 11 plus grandes villes.
Les citoyens les plus imposants en Amérique du Nord. Je comprends que la ville de Québec nous charge moins, mais à un moment donné, c'est l'accumulation des taxes que tout le monde nous demande, plus le 60$ que vous avez fait passer à la SAC, qui nous achale en disant « Tabarouette, il me semble qu'on n'a pas vraiment de retour sur notre investissement.
Ben, »
Là, vous allez me parler des parcs, vous allez me parler des patinoires qui sont gratuites et tout ça, mais pour quelqu'un qui est seul, qui ne va pas dans les parcs, qui ne va pas dans les patinoires, je veux dire, à un moment donné, c'est le 10$ qui va faire la différence ou le 60$ qui va faire la différence que ça va le tanner.
OK, mais quelqu'un qui est seul, mettons, qui n'utilise aucun service de la ville, d'abord, il n'y a personne qui n'utilise aucun service de la ville, là, parce qu'à partir du moment où tu vis dans cette ville-là, tu as des déchets, à partir du moment où tu vis dans cette ville-là, tu te promènes, tu as des trottoirs qui sont déneigés, il n'y a personne qui n'utilise aucun service de la ville, premièrement. Deuxièmement, il y a des gens qui en utilisent moins que d'autres. Tu as raison, quand quelqu'un seul n'utilise pas, par exemple, les programmes de vacances d'été, il n'y a pas d'enfants. Parfait. Quelqu'un qui ne va pas dans un parc, qui ne profite pas de les gratuités, qui ne profite pas de la qualité de nos parcs, parfait. Quelqu'un qui ne va pas au festival d'été ou dans des événements qui sont gratuits partout, parfait. OK. Cette personne-là utilise moins de services. Mais c'est pour ça qu'on vit en société aussi, là. C'est qu'on se dit, on est capable ensemble de mettre de l'argent dans le bien commun. Oui. Pour que ça permette à tout le monde d'avoir accès à plein de choses.
Monsieur le maire, vous me parliez tout à l'heure de la capacité de payer de la ville pour la ville de ses employés, que ce soit RTC ou ailleurs, l'école bleue, les gens dans les bibliothèques et tout ça. Ben, le citoyen a une capacité de payer aussi, puis son pouvoir d'achat est diminué année après année en raison des décisions que il faut vivre en collectivité, puis il faut payer pour ci, il faut payer
Yannick,
pour ça.
C'est pas vrai que tout le monde a perdu son pouvoir d'achat,
Le 10$ a écœuré plusieurs personnes, monsieur le maire, mais je pense que vous êtes le premier au courant, là, et les gens vous achalent un peu sur les réseaux sociaux. Je veux juste passer au prochain sujet. Là.
Ce qui rentre beaucoup là, par texto, c'est ça. C'est la taxe à l'immatriculation, la taxe résidentielle, puis l'accumulation au bout du compte. C'est la réflexion. On se pose la question sur est-ce qu'on peut être un petit peu plus en réflexion puis regarder le montant total qui s'est ajouté annuellement
sur la facture? La réponse est oui. C'est ce qu'on fait. Puis c'est pour ça qu'on en redonne aussi. Mais la qualité de nos services que les gens bénéficient à Québec, c'est aussi un gain qu'ils ont, là. C'est l'argent qu'on... Il n'y a pas de dépenses folles. Là. On coupe dans les dépenses. On a optimisé à hauteur de plusieurs dizaines de millions pour changer certains postes de dépenses, justement, pour respecter ça aussi. Les efforts qu'on se demande... Quand est arrivée l'inflation à 5,6% pendant 2 ans, là, les citoyens la payaient, cette inflation-là, à l'épicerie, peu importe, à l'essence, peu importe, dans leurs achats. La ville aussi la payait, là. Quand le chlore pour traiter l'eau augmente de 40-50% dans une année parce que les prix de certains produits comme ça augmentent, on le paye. Mais ces années-là, pour respecter ce que les citoyens vivaient, on a chargé à peu près la moitié de ce que l'inflation nous coûtait.
On comprend
qu'est-ce
tout
qu'il a fallu
ça,
faire?
Mais
il a fallu couper,
on a toujours l'impression que c'est nous qui devons puiser dans nos ressources pour maximiser les choses puis vous en envoyer encore plus. Puis de l'autre côté, on a l'impression que vous faites peut-être la même affaire, mais on le sent pas tant. Mais la solution, c'est toujours de nous en demander plus dans les poches. Comme une guerre incessante de « je veux pas t'en donner, mais toi moi je veux t'en demander ». La fameuse taxe sur l'immatriculation là, qui est supposément pour bonifier le fameux RTC dans le Nord, ça devient caduc sans les voies réservées que le gouvernement finance plus en plus. Là. Ben oui.
Mais non, je suis d'accord avec toi que des voies réservées permettraient d'améliorer, mais ça devient pas caduc.
Ben la taxe, ça sert à quoi finalement?
Ben, à des parcobus, des métrobus, du à vélo, puis des flexibus.
Mais c'est pas ça que vous nous aviez dit pour le 60$ supplémentaire. C'était pas ça que vous nous aviez dit pour le 60$ supplémentaire.
Ça. Quatre services de plus par année, et à chaque année, on ajoute quatre services. J'ai toujours dit ça depuis le début. Le début, je me suis battu en disant cette taxe-là va venir ajouter de nouveaux services pour servir les citoyens. La personne qui est dans sa voiture présentement, puis qui est dans congestion, là, puis qui dit moi, je suis tanné d'être dans congestion, je la comprends. Tous ceux qui disent non, on va trouver des solutions, là, mais je ne chargerai pas plus, là, ils offrent aucune solution. Ce qu'on a dit avec la taxe d'immatriculation, c'est qu'elle va permettre de répondre à des besoins. La personne qui va utiliser le parcobus, qui va utiliser le métrobus, qui va être développé à Val-Bélair en septembre, par exemple. Le premier est Val-Bélair vers Sainte-Foy-Québec. Cette personne-là qui est dans le bus, c'est 10 personnes-là qui sont dans le bus. L'autre qui est dans sa voiture, c'est 10 personnes qui ne sont pas devant elle. Si on veut améliorer la fluidité et la congestion, il faut offrir plus de services. Pas pour que tout le monde prenne l'autobus ou le vélo ou le flexibus. Là.
Monsieur le maire, j'ai vu le jour des années 80, puis année après année, on a toujours mis plus d'argent sur les autobus, puis il n'y a pas plus de monde dedans. Là, je vois que pour limiter les coûts, dans un article de Stéphanie Martin, on nous dit que l'administration Marchand, pas mal vous, ça, qui a décidé de ne pas ajouter des voies automobiles au futur viaduc qui prolongera la rue Mendel et de réserver la structure aux tramways, aux cyclistes et aux piétons. Et on nous dit dans le même article que dans les prochaines années, ben, s'il y a vraiment besoin, on va rajouter une structure supplémentaire pour que les autos puissent passer. Ça servait aux gens de ce secteur-là de les désenclaver totalement de ce secteur-là. Je veux dire, pourquoi pas payer de suite? Parce que vous êtes le premier à dire si on veut limiter les coûts, on est aussi bête de le faire de suite, parce que dans 10 ans, les coûts vont augmenter. Je veux dire, c'est pas une guerre à l'auto, ça, M. le maire.
Mais non, c'est pas une guerre. Non, Yannick, tu évoques des étiquettes.
Mais ça
n'a
pas augmenté.
Yannick, quand tu vas interroger sa mamade, là, tu vas-tu lui dire qu'il fait une guerre à l'auto parce que c'est le pouvoir Charest.
Vous n'avez pas idée à quel point je t'achalant avec toutes les autres aussi. Je suis tout le temps achalant. Je suis tout le temps achalant avec toutes les autres.
Son SRB sur Charest, il enlève une voie complète des deux côtés.
Puis j'en ai parlé.
Ben oui, tu penses-tu que ça, là, dans tous les axes routiers présentement, d'enlever une voie sur Charest, où il passe des dizaines de milliers de voitures par jour, là, ça va aider à la circulation.
Mais mon point étant que depuis les années 80, dans le secteur où j'habitais, au centre-ville, là, on a mis des centaines de millions de dollars dans le transport en commun, puis il y a toujours 7-8% de la population qui prend le transport en commun, et on continue avec ça. Puis pour ce qui est des automobiles, ben, c'est de plus en plus long.
Attends, OK.
Quand je parle de retour sur l'investissement, les automobilistes n'en ont pas. Là.
Non. Le Flexibus, là, ça n'existait pas. On a mis de l'argent là-dedans et c'est hyper utilisé. Fait que c'est pas vrai qu'il n'y a pas de nouveaux services qui augmentent l'utilisation.
Mais les statistiques, M. le maire, c'est 7 à 8 des gens de Québec qui prennent l'autobus, pas plus. Et ça, c'est depuis des décennies, malgré le fait qu'on augmente les budgets.
Ben oui, mais on augmente. Mais non, mais attends un petit peu, là. Ces gens-là, tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on les mette, on leur dise de s'acheter une voiture? Tu penses que la congestion va être meilleure?
Mais ils n'ont pas eu moyen de s'acheter des voitures pour la plupart. S'ils payent un stationnement comme moi, c'est 200$ par mois dans le secteur Saint-Roch là, pour avoir une place pour ma voiture et ma moto.
Dans le festival d'été actuellement, là, il y a un paquet de services qui ont été mis en place, dont à vélo, là, que s'il n'était pas là, ça serait pas mal pire, là. Quand on voit l'utilisation du vélo partage qu'on a mis en place, là, ça aussi, ça en enlève des citoyens de la route, là. Ça aussi, ça améliore la fluidité, là. Quand tu dis que c'est pas vrai qu'il y a de nouveaux services et qu'il n'y a pas plus d'utilisateurs, là, l'utilisation du vélo a doublé. De 2019 à 2023. C'est pas vrai, ça. Il y a plus d'utilisateurs de d'autres moyens de transport. Puis pourquoi c'est important? Pour que la personne qui veut utiliser sa voiture, ça soit fluide pour elle. Les autres qui vont dire, « Hey, moi, je vais faire en sorte de mettre un 4 voies sur Mendel, tu n'auras pas plus de fluidité. »
Sentez-vous
c'est pas
plus...
démontré.
Mais ça désenclavait, les gens qui étaient dans ce secteur-là. Je suppose
ça désenclavait les gens qui étaient dans ce secteur-là, puis les autres dans le secteur nord se plaignaient que ça allait les enclaver.
Mais est-ce que vous sentez que c'est plus coercitif comme façon de faire versus... encourager peut-être
mais en quoi c'est coercitif?
D'autres façons de se transporter.
Qu'est-ce qui est coercitif?
Non, mais on pose la question parce que ça revient souvent du genre « Ah, oh, on a l'impression qu'on nous oblige à changer nos moyens de transport par la façon que c'est fait. » Puis ça, c'était le cas avec votre mandat, mais c'était le cas avec les autres mandats aussi. Là.
Mais en quoi j'oublie? Attends, c'est important ça, Pascal.
Allez-y.
À quel moment j'oblige quelqu'un à changer de mode de transport?
Non, c'est dans la façon de faire avec le transport collectif qui est en train d'être implanté à Québec. Il y a des gens qui trouvent qu'en fermant des voies, en rendant des voies dans un sens seulement et non dans les deux sens qu'on avait, en enlevant du stationnement, hein, c'est une obligation pour des auditeurs, des gens de la ville, de changer leur moyen de transport en conséquence parce qu'ils n'auront plus la même facilité de se déplacer à voiture.
Mais alors, c'est pas ça qui nous gouverne. Ce qui nous gouverne, c'est qu'il y a une augmentation du parc immobilier. Il y a une augmentation de 40 000 citoyens à Québec dans les trois dernières années. Ça, c'est du monde qui se déplace. Fait qu'on est déjà dans la congestion. Le Journal de Québec l'avait illustré. Post-pandémie, on a atteint des records dans certains axes, notamment la capitale, où il y a plus de congestion, où à certaines heures, les gens sont pris dans le trafic. Les gens sont accotés dans le trafic. Les gens sont tannés d'être dans le trafic. On ne peut pas construire un deuxième autoroute. Donc, comme on ne peut pas passer plus de gens à un endroit, qu'est-ce qu'on fait? On diversifie les moyens pour que les gens, ça soit plus fluide pour eux. Mais il n'y a pas d'obligation. Moi, je répète, quelqu'un qui veut prendre sa voiture, là, la meilleure affaire qui peut y arriver, c'est que le système de transport collectif soit efficace en maudit.
Est-ce que j'entends que c'est pas une option, en fait, de le faire autrement?
Qu'est-ce que je voulais dire? C'est pas une option?
De le faire autrement, soit condamner des rues ou de... J'entends, on peut pas construire une autoroute, on peut pas aller là. Donc, on n'a pas le choix de le faire de cette manière-là, mais on veut pas être coercitif.
Mais il y a aucune volonté d'être coercitif. Pour okay. moi, là, les gens sont capables de décider quel est le meilleur moyen de transport pour eux. Mais ce que je leur dis, puis là, on va parler à celui qui utilise ou celle qui utilise sa voiture, là, c'est que si on trouve pas des solutions pour enlever des gens devant lui puis devant elle, ben elle va être prise dans le trafic encore plus parce qu'il y a plus de monde, le parc automobile augmente. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On offre des alternatives que les gens prennent ou prennent pas. Moi, là, que les gens me disent j'haïs ça le vélo, puis je veux jamais faire ça de ma vie, là, puis je ne toucherai même pas qu'une perche de 10 pieds, t'as le droit. Ça t'appartient. Moi, je te demande pas de faire du vélo. Je fais juste te dire que parce qu'on développe à vélo, ben c'est présentement là, 19 000 déplacements par jour de gens qui se déplacent à vélo qui sont pas devant toi sur la route ouais. en auto.
Là, je ne sais pas si vous prenez les chiffres pour le Festival d'été de Québec. Là, c'est assez exceptionnel en raison de la grève. Mais
regarde, on va prendre.
À vélo, c'est déficitaire. Là, c'est déficitaire puis ça va l'être jusqu'à la fin de
ces jours. Mais c'est un beau
service, par exemple. Yannick, l'autoroute de la capitale, c'est payant? L'autoroute de la capitale, c'est déficitaire?
C'est quoi les passages par jour sur l'autoroute de la capitale, monsieur le maire? Puis si on calcule aussi les livraisons qui se font à la grandeur du Québec et qui transitent par la capitale.
En plusieurs dizaines de milliers.
Ben voilà.
Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il y a une route qui n'est pas déficitaire au Québec?
Je vous dirais qu'il y a certaines routes, effectivement, qui doivent l'être pas déficitaires.
Parce qu'il y a un payage.
Oui.
C'est la seule façon. Alors, quand tu me dis qu'un vélo est déficitaire, je comprends pas pourquoi tu me dis ça. L'autobus, c'est déficitaire. Une bibliothèque, c'est déficitaire. Un hôpital, c'est déficitaire. Ouais. On se paye des services publics. Puis ces services publics-là, puis le cas à vélo, ça m'étonne que
mais c'est parce que le panier
il enlève
de service,
tout le monde de la route.
Mais monsieur le maire, le panier de services augmente constamment, puis on n'a pas toujours les moyens de se payer des paniers de services qui augmentent constamment. Je veux vous il me reste 2-3 minutes à vous
mais
achaler, monsieur le maire.
Mais à vélo là.
Et, ouais,
je les aime.
Toi tu l'aimes bien. Moi aussi je suis pro vélo, je suis pro transport en commun, mais des fois je trouve qu'on nous en demande pas mal puis ça nous fait suer un peu. Mais monsieur le maire, je veux vous parler de la sécurité des policiers parce que je pense que c'est important de finir avec ça en entrevue. J'ai vu l'article de Karine Gagnon aujourd'hui puis important d'en jaser. Juste avant, Jeff Fortin a rencontré le vérificateur général la semaine dernière, puis il parlait de votre bilan en sécurité routière, puis il semble y avoir une différence entre ce que le vérificateur général constate versus ce que les communications à la ville tentent de transmettre concernant le bilan de la sécurité routière. Je sais pas, je pense que vous allez être en mesure d'entendre ce que le vérificateur général mentionne.
En termes de sécurité routière, les enjeux, je dirais, sont beaucoup au niveau de la fiabilité de l'information. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, le service fait des analyses des données portant sur le nombre de victimes de collision. Et ils ont commencé à donner des données au mois d'août 2024 à un comité consultatif à l'interne, avec où ils présentaient une diminution de 19,2% des victimes de collision. Quand on est arrivé en conférence de presse au mois de novembre 2024, on est arrivé alors avec un taux de 1,1%. Donc, on n'avait plus les mêmes données. Il y avait donc des écarts.
Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi 18% d'écart, M. le maire?
Parce que les données de la SAC ont changé. Le fichier central qu'on utilise, c'est que nous, on envoie nos données de collision à la SAC qui collige tout ça. Puis les données ont changé parce que la SAC avait apporté des modifications. Puis c'était pas une erreur de la SAC, là. C'est juste qu'ils nous ont visé de nouvelles données. Fait qu'entre les deux, on a utilisé les nouvelles données de la SAC. On a utilisé le fichier central de la SAC qui, lui, s'était modifié. C'est juste ça.
Okay. Parce qu'on avait l'impression qu'encore une fois, la ville voulait paraître belle dans l'histoire.
Là. Non, ça, regarde, Yannick, tu dis encore une fois, c'est pas vrai. On vous donne... Regarde, depuis que je suis là, là, on a utilisé un tableau de bord où on a mis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'informations qui sont accessibles aux citoyens. Il n'y a pas de tricherie, là. C'est pas vrai. Les gens peuvent être en désaccord, peuvent dire « je ferais pas ça, je suis pas d'accord avec ça, j'aimerais mieux ça, j'aurais pas... » OK, parfait. Mais c'est pas vrai qu'on est la ville la plus transparente. On a un rapport indépendant qui nous le dit sur la façon de livrer nos états financiers, entre autres.
Mais dans
la
l'image,
au Canada.
Dans l'image, c'était dur à avaler. Dans ce que ça nous a paru, dans la manière dont ça a été dit, il y a des propos du vérificateur général aussi qui ont été importants par rapport à la transparence.
Il n'y a pas dit qu'il y avait une malversation. Il a dit que les données avaient changé. Nous, on vous explique pourquoi elles ont changé.
Oui, mais ça, je pense que, en tout cas, on le réclame après... Tout le monde fait sa fiche de post-mortem, comment a été mon année, et où est-ce que je m'améliore et autres. Mais côté transparence, je pense que les citoyens, les citoyennes, nous ici, on est critiques à cet égard-là. Peu importe le palier politique,
mais moi, je pense qu'on est...
d'être meilleur là-dedans. Parce qu'on a l'impression, avec la CAQ, on a l'impression, au municipal, on a l'impression, au fédéral, que c'est un enjeu.
Okay, mais il n'y a pas une ville qui est plus transparente que nous présentement. On a augmenté les données disponibles aux citoyens tout azimut. Puis on va continuer de le faire. J'avais dit en campagne, ces données-là appartiennent aux citoyens, on va les rendre disponibles. On rend l'émission des permis, c'est fou maintenant ce qu'on libère comme données, que les gens peuvent utiliser, peuvent aller voir. C'est ça le principe. Est-ce qu'on peut en faire plus? Pascal, t'as raison, on peut en faire plus. Cependant, depuis 4 ans, là, j'accepte pas qu'on soit comparé avec d'autres paliers de gouvernement, parce que les efforts qu'on a faits, ils sont énormes. Énormes, sincèrement. Puis c'est pas vrai qu'on n'est pas transparent, puis il n'y a pas de tricherie. Puis quand il y a des erreurs, on le corrige, puis on le dit.
Mais vous connaissez assurément là, les efforts que vous avez faits. Nous, on ne plonge pas là-dedans chaque jour, on voit les résultats. Mais assurément que ce qu'on demande en politique en général, là, dans l'année où on est, puis pour la suite des choses, c'est pas que ce soit un exercice de communication, que ce soit un exercice de transparence. Que quand ça ne fonctionne pas, il y ait des gens qui se présentent en disant « on a fait une erreur ». Ça, c'est une erreur, ça n'a pas fonctionné. Puis... C'est un mot d'ordre qu'on dit à chaque politicien qui passe dans l'émission. L'exercice de communication, il faut que ce soit fluide, il faut qu'on le comprenne, c'est correct de le travailler. Mais quand c'est de se sauver la face, ça, on vient épuiser, puis la politique est tournée vers là.
Mais as-tu l'impression que là-dessus, on essaie de se sauver la face?
Moi, des fois, j'ai l'impression que oui, même à la Ville de Québec, des fois, il y a plus de façons de se défendre que de façons d'être honnête. Dans une communication. Oui, c'est arrivé. Oui, j'ai eu cette impression-là. Peut-être pas.
Je te crois.
Mais il y a des impressions, oui.
Je te dis, puis on se reparlera avec plaisir
avec
quand ça arrivera, là.
Oui.
Mais moi, mon objectif, c'est pas de se sauver la face, c'est de donner l'heure juste puis d'expliquer pourquoi. Dans ce cas-ci, ce que je vous explique, c'est qu'on a un fichier qui rentre de la SAAC, on communique à notre comité, la SAAC nous envoie une lettre, le fichier a changé, les données sont pas les mêmes, mais on communique les bonnes données.
Mais il fait bon de se parler, M. Marchand, merci d'avoir été là.
Bien, ça me fait plaisir, sincèrement.
Ouais.
On devrait prendre cette habitude-là plus fréquemment.
Dernière question, M. Marchand, c'est concernant un article de Karine Gagnon, une chronique de Karine Gagnon ce matin. Moi, je suis flabbergasté de voir... Tu sais, que les gens ne soient pas d'accord avec vous, ça arrive souvent que je ne sois pas d'accord avec vous, M. le maire, mais ça me flabbergasse de voir qu'il y a des gens qui veulent s'en prendre physiquement à des élus,
ouais,
qui font des menaces de mort sur les réseaux sociaux en pensant que ça va passer dans le beurre. C'est épouvantable ce qui arrive. Puis d'où vient cette fracture-là, M. le maire, entre les citoyens qui avaient un certain respect pour les politiciens versus les citoyens qui se disent « Non, moi, je vais m'en prendre au maire ou je vais m'en prendre à une chroniqueuse comme Karine Gagnon en disant « Hey, toi, si je te vois dans la rue, m'a te violé. » Je veux dire, c'est épouvantable ce qui se passe.
Ouais,
puis ça, c'est pas juste à Québec, là, c'est à la grandeur du Québec.
Ah, puis tu peux même à la grandeur de la planète. Là. Tu sais, je suis en contact avec des politiciens d'ailleurs au Canada, aux États-Unis, en Europe. C'est à la grandeur de la planète. C'est à la grandeur de la planète. On dirait qu'il y a quelque chose qui s'est fracturé avec la pandémie. Il y a des gens qui ont perdu confiance. Mais je rajouterais 2-3 autres éléments plus importants encore que la pandémie. C'est qu'on est dans une ère où les choses changent beaucoup. Tu sais, c'est pas simple, présentement, avoir confiance quand tu t'entends parler des crises géopolitiques, quand tu entends parler des crises environnementales, des changements climatiques, quand tu entends parler de la question du coût de la vie, des crises de logement, même des changements sociaux. Là, on parlait d'itinérance tantôt, c'en est un autre exemple. Les gens sont bousculés. Puis bousculés, ça veut dire en sorte... Puis, vous aviez raison, tu sais, de nommer, quand vous dites que les gens sont bousculés dans leur façon de se déplacer, les gens ont l'impression qu'on va leur dire quoi faire et qu'on va venir décider pour eux. Or, c'est pas ça que je veux faire, mais je comprends pourquoi les gens pensent ça. C'est qu'à plusieurs égards dans leur vie, le tapis glisse en dessous des pieds. T'sais, vous parliez de la hausse des prix à la consommation, des choses qu'on n'est plus capable de se payer. Fait que c'est sûr que pour certains, ça devient très, très, très fragilisant. Ils deviennent très vulnérables. Puis des fois, c'est pas la bonne façon, mais pour se, essayer de, un peu de se disculper, essayer d'un peu de sortir la stime, mais il y a des gens qui se laissent derrière le clavier aller. Et honnêtement, c'est vraiment à proscrire, là. Tu sais, moi, je porte plainte à chaque fois. Mais quand, au final, je parlerai pas du cas qui nous occupe parce que ça sera à la police de commenter, mais que la police débarque chez vous parce que derrière ton clavier, t'as dit que tu menaces de mort un politicien, t'as pas plus gagné toi non plus, là. T'as le droit d'être en désaccord, t'as le droit de te présenter aux élections, t'as le droit de dire qu'il est pas bon, t'as le droit de dire que tu ferais mieux, t'as le droit de dire voici ce que tu voudrais qu'on fasse. Mais à partir du moment où tu attaques aux individus, puis je pense que le contexte actuel n'aide pas. Il y a des gens qui se sentent pris à la gorge, qu'ils aient raison ou non, c'est pas important, mais qui trouvent un mauvais moyen de faire sortir la pression. Puis honnêtement, ben ça nuit à tout le monde.
Un bel après-midi, monsieur le maire, puis bon festival d'été de Québec à tout le monde.
On se revoit après vacances.
Au revoir, bye-bye. Le maire de la ville de Québec, Bruno Marchand, qui était avec nous pendant plus de 35 minutes, très généreux de sa part, je sais qu'il est très, très, très sollicité. On était supposé l'avoir à midi et demi, finalement, les heures ont changé, puis là, ben, on l'a eu à midi 35. On a fait un genre de 35-40 minutes avec lui, puis on aura l'occasion de lui reparler dans les prochaines semaines pour parler de d'autres dossiers.
Chose certaine, il répondait à nos questions, et ça, c'est apprécié.
Oui, c'est ça. C'est un gars qui est très verbomoteur, là. Fait que, ouais. si t'as 50 questions à poser comme j'avais... Ben là, tu stresses parce que tu dis « Oh, tabarouette!
» Ouais, avec ma dernière question,
questions, je vais en avoir juste 15, finalement.
C'est la fin, finalement.
1h15, on s'arrête. 418-971-101, 418-971-101. Boulevard 102-1.